Avant de commencer, je voulais juste dire à quel point j'étais impressionnée par cette exposition virtuelle et je me faisais la réflexion de la somme de travail que ça représentait, considérable, mais aussi effectivement des profits qu'on pourrait en tirer, parce que je crois qu'il y a vraiment une mine, hein, et merci beaucoup d'avoir mis en ligne cet outil qui est vraiment, vraiment très utile pour la connaissance de QGAS et plus globalement pour la connaissance de la science juridique. Alors, l'exercice auquel je vais avoir l'honneur de me livrer devant vous a d'abord pris la forme, assez peu académique je dois dire, d'une boutade contactée il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus très bien, enfin ça fait un moment déjà, hein, voilà, par Xavier Prévost pour participer à son beau projet sur QGAS et sa réception. Je lui ai fait part à l'époque de mes doutes sur l'expression « grand juriste », même mis à distance par des guillemets. J'y voyais en effet matière à discussion, voire à objection. Et évidemment, je me suis vu proposer de travailler sur ce sujet du grand juriste par Xavier. Or, vous le savez sans doute, on ne lui résiste pas. Voilà, j'ai donc accepté cette proposition qu'il me faut à présent assumer. Et je vais essayer de le faire plutôt sous forme de questionnement, parce que je n'ai pas la réponse à la question « qu'est-ce que c'est qu'un grand juriste ?», mais je vais essayer de vous proposer un certain nombre de pistes autour de cette notion. Alors, en premier lieu, me semble-t-il, parler de grand juriste procède d'une forme d'héroïsation du droit. On a eu quelques exemples tout à l'heure, qui voit dans quelques figures magistrales des créateurs, des maîtres, des instituteurs de la science juridique, et dans ce cadre, une grande partie de la science du droit serait ainsi référée à des grands juristes qui fourniraient la pointe de leur originalité ou de leur clarté. Bien connaître le droit supposerait donc que l'on clarifia la dimension partiellement biographique de celui-ci, d'où d'ailleurs la rédaction de répertoires prosopographiques, de dictionnaires de juristes, voire de biographies entières, si on a suffisamment d'éléments pour en assumer l'écriture. D'où aussi, et ça m'a surpris, l'abondance relative des articles et des ouvrages écrits sur la notion de grand juriste. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, je me suis dit qu'il y a beaucoup de choses, en fait, sur cette question des grands juristes, notamment à l'époque contemporaine. Valoriser le droit, c'est donc aussi célébrer la mémoire de ces grands juristes, on l'a vu, en donnant leur nom à des rues, à des établissements d'enseignement, à des amphithéâtres, à des places publiques, en les statuant, en les portraiturant, en les commémorant, bref, en les inscrivant dans un espace commun, celui de la mémoire ou celui de la place publique. C'est d'ailleurs en ce sens que Philippe Mallory comprend l'expression lorsqu'il écrit « Les grands juristes sont ceux du passé, ils nous ont tout ou presque tout appris, plus ils sont anciens et plus grande est la reconnaissance que nous leur devons ». Et à ce moment-là, il évoque les signes extérieurs de cette reconnaissance, comme précisément les rues, les places, etc. Alors, ce point de vue a l'immense mérite de l'efficacité pédagogique, mais il me semble qu'il mérite tout de même d'être un petit peu nuancé. D'abord, parce que, comme le soulignait Marc Bloch en citant un proverbe chinois, l'homme est le fils de son temps aussi bien que de son père. Le tropisme biographique ne doit donc pas occulter pour chaque époque la circulation des idées, la vitalité des débats, la pression des forces sociales, la force des représentations culturelles ou religieuses, la réalité des situations politiques et des rapports économiques. Bref, la contextualisation, tous ces éléments qui influencent, modèlent et parfois inspirent l'œuvre des grands juristes. Et il n'est pas toujours possible de démêler ce qu'ils ont emprunté à d'autres, ce qu'ils doivent à l'esprit de leur temps et ce qui leur revient en propre, à eux, les grands juristes, si toutefois cette notion de « en propre » a un sens. Une partie de l'historiographie, d'ailleurs, rompt de plus en plus avec cette vision et au récit de la succession des maîtres aux disciples allant sur la voie des progrès, succède de plus en plus une conception éclatée, ouverte du champ juridique, en une multitude de centres d'études, avec un certain nombre de canaux d'influence et de réseaux pas toujours facile à identifier, mais où en tout cas n'émerge pas forcément une figure dominante. Deuxième objection, ou deuxième en tout cas nuance à cette idée, faire fond sur les grands juristes pour parler du droit est une attitude qui me semble historiquement datée, parce qu'elle suppose, acquise, la notion d'auteur. Or, comme nous aurons l'occasion d'y revenir, cela n'a pas toujours été le cas. Maintes œuvres juridiques ont été écrites sans auteur identifié ou identifiable, soit que ces œuvres aient été anonymes, soit qu'elles aient été composites. En outre, le type même d'intervention auctoriale mérite d'être interrogé. A-t-on affaire à une œuvre entièrement originale, si tant est que ce mot puisse avoir un sens ? Cette œuvre se nourrit-elle à l'inverse d'emprunts ? Et si c'est le cas, quelle est la nature de ces emprunts ? Quelle est leur intensité ? L'œuvre procède-t-elle au contraire par simple réaménagement ? Quelles sont les intentions poursuivies par celui qui l'a produit ? Autant donc d'interrogations qui ne peuvent être ignorées, et en tout cas qui contribuent certainement à déconstruire l'idée même d'un juriste qui serait créateur et grand par sa capacité d'invention. Alors, ça c'est pour interroger la notion de grand juriste. Maintenant, ce que je voudrais dire en deuxième point, c'est que cette notion aussi présuppose, me semble-t-il, l'idée d'un ordre juridique où il est possible de rabattre le droit, au moins une partie du droit, sur de la subjectivité, d'accord ? Sur des personnes. Or, tous les ordres juridiques ne fonctionnent pas ainsi. Je vais prendre deux exemples. Premier exemple, la coutume. La coutume, quand elle est orale, moi, évidemment, quand elle est rédigée, elle fait l'objet de commentaires, mais quand elle est orale, elle ne donne pas lieu à l'émergence de grands juristes. C'est une pratique diffuse et qui semble coextensive aux communautés dans lesquelles cette même coutume se propage et sert à organiser les rapports sociaux. Le deuxième exemple, là je parle sous le contrôle du professeur Mantovani, ça concerne le droit romain et en particulier sa dernière expression, c'est-à-dire le moment où la concentration des sources du droit entre les mains de l'empereur a considérablement réduit la créativité de la doctrine au bénéfice d'un droit qui était un droit, encore une fois, impérial et non pas un droit fondé donc sur une interprétation de grands juristes. Alors, d'une certaine façon, si je fais un petit peu le bilan de tout ça, je dirais qu'il y a une certaine coextensivité, ou du moins une forte convergence, entre la notion de grand juriste et l'existence d'une activité réflexive sur le droit, c'est-à-dire d'une doctrine. Alors, bien sûr, on peut toujours trouver des variantes, mais tout de même, il me semble que cette idée d'une écriture du droit, elle-même susceptible d'une analyse critique, d'une reprise et d'une contestation, c'est un élément important, justement, pour l'émergence de cette figure. Donc, cette question des grands juristes, pour peu qu'on la prenne au sérieux, comme j'ai été aimablement invité à le faire, amène donc à déployer un certain nombre d'interrogations qui sont finalement structurantes pour le champ juridique. Des interrogations sur la nature de l'activité des juristes, on va le voir, des interrogations sur la normativité elle-même, comment ça fonctionne, sur la parole de ces grands juristes, mais aussi, de manière peut-être un peu plus inquiétante, parce que là, c'est un sujet sur lequel, évidemment, il est très difficile de porter des réponses, sur la nature même du droit. Alors, avant de m'essayer donc à cet exercice très très difficile, parce que je viens d'expliquer que c'est renvoyé absolument à tout ce qui constitue même le droit, je souhaite brièvement dire d'où je parle. Même s'il m'est arrivé de m'aventurer jusqu'au XVIe siècle, le cœur de mon activité scientifique, c'est le Moyen-Âge. Et ce sont les grands juristes médiévaux que je connais le moins mal. Ce sont surtout eux qui vont être au cœur de mon exposé. Alors, je suis bien sûr consciente qu'il y a quelques paradoxes à entamer un colloque consacré à la destinée posthume de Cujas, en partant de ce qu'il y a en amont même de sa propre réflexion. Mais d'une part, comme l'a montré Xavier Prévost, et comme j'aurai l'occasion d'y revenir, Cujas n'a jamais récusé les apports de ses prédécesseurs. Et d'autre part, comme je vais essayer de vous le montrer, la variété des configurations offertes au long de la longue durée médiévale est certainement de nature à alimenter la réflexion, en tout cas le questionnement, sur cette notion d'auteur et de juriste, qui sont des notions qui se sont précisément cristallisées au cœur du Moyen-Âge. Alors, selon une trajectoire qui ne prétend absolument pas à l'originalité, j'aborderai cette question du grand juriste en commençant d'abord par montrer qu'il s'agit d'une invention, l'invention d'une figure singulière, avant de m'intéresser à la canonisation de son œuvre, puisque finalement, c'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire l'identification de cette œuvre, sa réception, sa lecture et éventuellement ses critiques. Donc le grand juriste, l'invention d'une figure singulière. D'une certaine façon, l'intérêt qu'il y a à partir du Moyen-Âge, c'est de s'obliger à envisager l'ensemble des processus de formation d'une autorité doctrinale à partir d'origines qui sont des origines incertaines et qui sont liées notamment, mais on va le voir pas exclusivement, à la redécouverte du droit romain. Cette émergence de la formation d'une activité doctrinale, donc cette émergence me paraît pouvoir être déployée autour de deux éléments importants. D'une part, le point d'imputation d'une réflexion à une personne, c'est l'idée qu'il y a un juriste c'est quelqu'un qui prend en charge la réflexion juridique, et d'autre part, la singularité de la réflexion juridique par rapport à d'autres champs du savoir. Ce sont donc ces deux points que je vais envisager à présent. Donc de la trace au récit, la question de l'auteur. La question de l'auteur. Alors, la notion de grand juriste, rapportée à l'époque médiévale, bon, je vous indiquais qu'elle me paraissait être un but témoin intéressant pour y réfléchir. Donc cette notion pose plusieurs problèmes. Que je vais essayer de vous présenter en distinguant très sommairement l'appropriation des textes de droit romain de la cristallisation du droit canonique, parce qu'il me semble que les perspectives posées par ces deux processus ne sont pas exactement les mêmes. D'abord, la redécouverte des ouvrages du corpus juris s'est effectuée, comme vous le savez tous, de manière progressive et sous forme de gloses au départ, des gloses éparses, parfois signées, généralement une initiale, mais pas toujours, et des glosses pas toujours identifiables, malgré le travail donc, d'identification, le travail d'érudition qui a été réalisé. Et donc, ces glosses traduisent finalement un effort d'élaboration juridique souterrain, au départ, difficile à assigner à un auteur unique. Je vais prendre l'exemple d'Irnerius, considéré comme un des fondateurs de la science du droit. Certaines des gloses d'attribution attribuées à Irnerius sont extrêmement discutées et on n'est pas absolument certain que ce soit bien lui qui les ait produites. Donc, finalement, par-delà les questions d'attribution, ça pose aussi la question de savoir, cette manière de fonctionner, pose aussi la question de savoir si, finalement, une accumulation de gloses, suivant les développements du texte source, suffit à caractériser une pensée. Est-ce qu'une succession de commentaires, ça fait une pensée? C'est un vrai problème. Alors, bien sûr, une fois les méthodes d'enseignement affermies, on a vu se mettre en place un certain nombre de modes formel d'exposition de cette pensée juridique, des lectures, des sommes, des questionnaires, enfin, toute une série d'exercices académiques qui ont permis justement de mesurer la formation et le déploiement de cette pensée. Mais encore une fois, même une fois que ces modes formels d'exposition ont été réalisés, même donc après l'émergence des premières universités, des difficultés d'attribution subsistent. Prenons au hasard l'exemple du studium d'Orléans au XIIIe siècle, qui est un studium important, très créateur, très novateur, et qui a été bien étudié par Marie Bassano. Voici ce qu'elle écrit. Elle souligne que la fidélité de certains auteurs orléanais aux thèses professées par d'autres, dans la lignée doctrinale desquelles ils s'inscrivent, ne permet pas toujours de différencier leurs écrits et leurs opinions de ceux de leurs prédécesseurs. Ce phénomène de reprise, de commentaires et d'enseignements déjà dispensés par un autre maître, empêche bien souvent d'attribuer avec certitude un texte ou de l'inscrire dans une chronologie. Donc même quand on a des modes d'exposition formalisés, c'est pas toujours facile de savoir à qui appartient la pensée qui est évoquée dans ces textes. En d'autres termes, si nous faisons le choix de lier la notion de grand juriste à celle d'auteur, au sens de créateur, nous nous trouvons devant au moins deux équations qui sont difficiles à résoudre. Première équation, l'imputation des textes subsistants à des individus précis. Deuxième équation, surtout, la singularisation de leur pensée au regard de ceux qui les ont précédés. Or, cette question n'est pas une question anodine. Des récits biographiques, plus ou moins fiables, on évoquait tout à l'heure les gens urbaines autour de Cujas, des histoires, des anecdotes, sont indissociables des débuts de la science juridique médiévale. Pourquoi ? Parce que dans l'esprit de ceux qui les rapportent, comme de ceux qui les consomment, ces histoires, le droit est toujours référé à un auteur. La science juridique se déploie comme un dialogue ininterrompu, une chaîne d'autorité, mais aussi un rapport de filiation intellectuelle de maître à disciple. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que, on y reviendra, mais le droit ne procède pas tellement par accumulation de connaissances techniques, mais par discussion d'opinions émises par des juristes. Donc l'assignation biographique, c'est pas quelque chose de négligeable, c'est pas quelque chose de marginal, ça fait partie prenante de ce processus de construction du droit. Alors, pour les canonistes, la question est un peu différente, tout simplement parce que, pour eux, en tout cas jusqu'à la rupture opérée au XIIIe siècle, on y reviendra, il s'agit fondamentalement non pas de découvrir un nouvel horizon, qui serait l'horizon du droit romain, mais d'ordonner des contenus préexistants. Il y a une continuité textuelle chez les canonistes qui n'existe pas pour le droit romain. Alors, par exemple, il a été noté que entre 1050 et 1150, l'un des supports essentiels, de cette mise en ordre, ce sont les collections canoniques. Les collections canoniques, c'est vraiment ce qui permet justement d'ordonner l'ensemble des règles au cours du temps. Et ces collections canoniques, à partir du XIe siècle, elles vont connaître une véritable explosion, un développement considérable. Mais beaucoup restent anonymes, on ne sait pas toujours qui les a écrites, et certaines sont même complètement dépourvues de titres. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dans ces recueils, leur succès ne vient pas de l'auteur, quand il est connu, nom de l'auteur, mais finalement leur succès vient des autorités que ces collections contiennent. Je cite ici ce qu'écrit Gérard Genanengo. Avant Gratien, jamais on ne renvoie à un canon en citant la collection d'où il est tiré, la collection d'un tel ou d'un tel, mais on indique toujours soigneusement l'auteur, un pape ou un père de l'Église, ou l'origine, par exemple le concile du canon qui est cité, et ce sont ces textes qui confèrent l'autorité à la collection. Donc on a des collections qui sont une mise en ordre du droit, mais qui finalement tirent leur autorité des contenus de la collection elle-même. Et pourtant, le travail qui est effectué dans ces collections canoniques, c'est un vrai travail de juriste. Il ne faut pas se dire, simplement, les collections, c'est un rassemblement de textes, et il n'y a pas d'apport, c'est juste une collection, comme on ferait une collection de timbres. Évidemment, il n'y a pas vraiment de pensée derrière. Pourquoi ? Parce que ces collections, finalement, ordonnent un donné normatif, en faisant le choix de sélections qui sont signifiantes dans la masse des textes disponibles. D'accord ? Et donc, le matériau que ces collections délivrent, c'est un matériau qui est déjà réfléchi, déjà pensé, et qui doit permettre ensuite au lecteur de produire ensuite sa propre, éventuellement, interprétation. Donc, dans le cadre de ces collections canoniques, il existe bien une créativité juridique, mais une créativité juridique qui est en quelque sorte antécédente, ou en tout cas extérieure, à l'émergence de la notion d'auteur ou de la notion même de juriste. Donc il y a du droit, il y a de la pensée juridique, mais il n'y a pas forcément des juristes en tant que tels. Et encore une fois, cette créativité, elle peut être saisie et identifiée dans les textes. Reste à se demander ce que sont ces textes et en quoi leur interprétation signale la naissance d'une science juridique. Du texte à son enseignement, la singularité d'une discipline. Alors, il est toujours difficile de définir ce qu'est le droit. En général, on s'accorde pour considérer que le droit est distinct des autres champs du savoir. On parle de singularité, on parle d'autonomie, on parle parfois d'autopoïèse, on dit que ce n'est pas une science sociale. Enfin, il y a tout un discours qui insiste sur l'autonomie du droit, sur l'indépendance du droit à l'égard des autres sphères de la connaissance humaine. Alors, plus précisément, ce qui semble être au cœur de cette singularité, c'est la centralité et le formalisme du texte qui est un texte particulier, qui produit un certain nombre d'effets sur le réel et dont l'enseignement, donc, encore une fois, fait l'objet d'un certain nombre de normes formelles. Alors, je vais citer ici des bons auteurs, dans une perspective, je dirais, empruntée à Pierre Legendre. Alain Supiot, par exemple, fait ce constat, je cite, en première approche, « La recherche en droit ne diffère pas sensiblement des autres activités de recherche. Il s'agit toujours de colliger, de décrire, d'ordonner, d'interpréter, d'expliquer rationnellement les données empiriques. La singularité vient de la nature de ces données, qui sont des règles et des jugements fixés dans des écrits. Ces données ne constituent pas une collection de choses inertes, mais bien plutôt, comme le suggère l'image des sources du droit, un flux vivant et ininterrompu de textes faisant autorité. » Le grand juriste, c'est donc celui qui, mieux qu'un autre, maîtrise les codes de lecture des textes normatifs et juridictionnels, qui est capable d'en développer une interprétation convaincante et de transmettre son savoir aux générations suivantes. Le grand juriste, c'est un lecteur. Le grand juriste, c'est un commentateur et c'est un écrivain. Dans une sorte de mouvement perpétuel qui se nourrit du texte pour y retourner, mouvement perpétuel qui n'obéit pas à une logique ou à une esthétique de la liberté et de l'originalité, mais qui répond, comme je le disais tout à l'heure, à un formalisme, à des modèles rhétoriques. Pourquoi ? Parce que ces modèles rhétoriques renvoient en amont à un apprentissage standardisé, celui du droit, et en aval à une promesse d'effectivité, puisque le droit est censé, encore une fois, produire des effets. D'où, une fois encore, l'intérêt de faire le détour par le Moyen-Âge, puisque, précisément, une partie de l'époque médiévale a existé, si je puis dire, une partie de la transmission de la science juridique médiévale s'est faite avant la standardisation académique. Et sous cet aspect, je voudrais encore une fois attirer l'attention sur le droit canonique, précisément parce qu'il s'inscrit dans un continuum textuel avec la tradition antérieure, et notamment la tradition antérieure à l'émergence des études juridiques. Or, on est assez mal renseigné sur les premières écoles. On ne sait pas très bien comment se formaient, avant le XIIe siècle, comment se formaient ceux qui avaient le droit en charge, en particulier les évêques. On sait qu'il y a un besoin croissant pour le droit. C'est difficile de donner des indications parce que l'un des sujets qui est posé par précisément cette continuité textuelle, c'est celle de la progressive séparation du champ juridique d'autres champs du savoir et en particulier de la théologie. Alors, je vais vous donner un exemple, qui est un exemple sur lequel il se trouve que j'ai l'occasion de travailler un peu en ce moment, celui d'Yves de Chartres. et de Chartres. Je continue à jouer à domicile, puisqu'on est toujours en région Centre-Val-de-Loire, comme Orléans. Et donc Yves de Chartres est mort en 1116, donc on est très avant la rédaction du décret de Gratien, très avant l'enseignement du droit dans les facultés de droit. Et Yves, c'est quelqu'un qui a eu un rôle très important, il est l'auteur, auteur ou inspirateur d'au moins 3 collections canoniques. Et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, il est aussi l'auteur d'un prologue qui est passionnant, qui est un prologue à une de ses collections, ou un prologue qu'il a écrit de manière séparée, on ne sait pas très bien. Et ce prologue, ce n'est pas simplement un prologue où il nous dit « voilà, je vais faire ci, je vais faire ça », il présente sa réflexion sur le droit. Donc il prend vraiment position en expliquant ce que c'est que le droit pour lui, pas seulement le droit canonique, mais le droit en général. Donc c'est une vraie attitude de juriste, finalement. Or, ce texte, qui a été lu par des générations, qui a inspiré l'enseignement du droit, ce texte montre aussi que Yves ne s'y départit jamais de son rôle de pasteur et il n'abandonne jamais non plus la visée sotériologique qui, pour lui, doit informer toute interprétation juridique. Pour lui, le droit, c'est une question de salut d'autrui, notamment le salut du prochain. Alors, comment qualifier l'œuvre d'Yves de Chartres ? Yves de Chartres, c'est bien un auteur de droit, il a fait du droit, il réfléchit en juriste. Mais est-ce que c'est un pasteur ? Est-ce que c'est un moraliste ? Est-ce que c'est un théologien ? Est-ce que c'est vraiment un juriste ? Est-ce que c'est un peu tout ça ? Mais alors, dans quelle proportion ? Et alors, qu'en est-il de la singularité de la discipline juridique avant donc le XIIe siècle ? Il n'est pas possible de répondre comme ça d'entrée de jeu à ces questions. Si l'on s'en tient strictement à ce concept de la biographie de l'auteur et de la structure interne de son œuvre. Si l'on veut avancer un petit peu, il est nécessaire de faire un pas de côté et donc de s'interroger sur la réception de cette œuvre, c'est-à-dire sur le regard que la postérité a posé sur elle. La canonisation d'une œuvre. Depuis le début de cette présentation, j'ai fait le choix de lier la figure du grand juriste à l'espace doctrinal, en considérant que celui-ci, enfin cet espace doctrinal, était en quelque sorte structuré par la figure du grand juriste. Or, cet espace doctrinal est en réalité assez fluide, parce qu'il n'y a pas d'institution qui dise « un tel, c'est un grand juriste, un tel, c'est pas un grand juriste », il n'y a pas de doctrine officielle. Bien sûr, il peut y avoir une doctrine dominante, il peut y avoir une doctrine majoritaire, mais il y a surtout des opinions doctrinales, et entre lesquelles il est possible de choisir, éventuellement, de contester. Et donc, qu'en est-il, face à cette pluralité, de la figure du grand juriste ? Est-ce que le grand juriste, finalement, c'est le parangon totémique d'une doctrine majoritaire ? Ou alors, est-ce que c'est le précurseur d'une opinion novatrice ? Est-ce que c'est un esprit original ou est-ce que c'est un esprit conformiste ? Alors, pour se nourrir ce questionnement, je pense qu'on pourrait d'abord se pencher sur les conditions de transmission de la doctrine, avant, à la fin, en conclusion, d'évoquer sa canonisation. Transmission et réception. La question du devenir d'une œuvre dépend d'un très grand nombre de facteurs, surtout pour les hautes époques, un très grand nombre de facteurs dont la variabilité relativise en quelque sorte ce que la figure du grand juriste peut avoir d'écrasant et d'apparemment nécessaire. Si l'on considère en effet qu'un grand juriste, c'est d'abord et avant tout celui dont le travail a rencontré la lecture et l'adhésion du public, on conviendra que cette rencontre avec un public est toujours conditionnée par des facteurs en partie extérieurs à l'œuvre elle-même. Alors, l'amplitude, encore une fois, de cette réception peut évidemment produire la qualité, mais elle provient aussi, par exemple, de l'acceptabilité sociale de l'œuvre, mais aussi des conditions matérielles de sa diffusion, et encore une fois, cela vaut surtout pour des époques anciennes. Alors, ça revient donc à se demander si le producteur d'une œuvre brillante mais inconnu, dont il ne resterait qu'un manuscrit, par exemple, peut être qualifié de grand juriste, au même titre qu'un auteur qui serait moins créatif, mais dont les travaux ont été commentés, célébrés, repris et ont alimenté à leur tour de nouvelles productions. D'une certaine façon, la réponse à cette question dépend de la représentation que l'on se fait du droit. Soit c'est une création de l'esprit, valant finalement en tant que telle, par sa science, sa cohérence interne, ou alors, on peut dire que le droit c'est une production sociale qui est appelée à exercer une certaine influence sur la réalité. Alors, il n'y a pas de réponse unique, et puis de toute façon, il existe une foule de situations intermédiaires entre le génie complètement ignoré et le tâcheron populaire. Il y a évidemment toute une gamme de situations. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, c'est que la diffusion de l'œuvre, par-delà les aléas que j'ai évoqués et le fait qu'elle est plus ou moins acceptée socialement, elle peut aussi être liée en partie à l'auteur lui-même. C'est-à-dire que l'auteur peut préempter en quelque sorte la postérité. Alors, il peut le faire, par exemple, dans des préfaces. J'évoquais tout à l'heure Yves de Chartres, qui sont de véritables, pas simplement des captationes, benevolentiae, amis de lecteurs, soins indulgents, ce genre de choses. Non, certaines préfaces sont de vrais projets d'écriture qui inscrivent l'œuvre, en tout cas qui souhaitent inscrire l'œuvre, dans une perspective globale et qui fournissent en quelque sorte une clé d'explication, une clé d'interprétation, offrant aussi les conditions d'un dialogue ouvert avec la postérité. Et d'une certaine façon, cette conception polyphonique du savoir, comme instituant le grand juriste comme un organisateur, un ordonnateur des opinions, et se retrouve absolument dans toutes les œuvres du droit savant. Et à cet égard, d'ailleurs, je crois qu'on a évoqué tout à l'heure la question de la polémique. La polémique, ça a été aussi un lieu décisif de l'émergence des figures d'autorité, de l'émergence des grands juristes. Alors, juste un exemple, en passant, sans m'y appesantir, le Moyen-Âge a vu la rédaction de collections de dissensiones dominorum, les controverses entre les maîtres, qui sont des espèces de recueils, de collections assignées à des grands auteurs. Alors souvent, c'est des collections qui datent du XIIe siècle, ce qu'on appelle les quatre docteurs, et parmi eux en particulier Bulgarus et Martinus, qu'on présente toujours comme étant opposés, mais c'est aussi une façon, la polémique, c'est aussi une façon donc, de faire advenir cette figure d'un auteur. Enfin, par-delà les interventions des auteurs eux-mêmes, soit dans leur préface, soit par le biais de polémiques, je ne peux pas ne pas mentionner, bien sûr, la question qui est celle du devenir purement matériel des œuvres elles-mêmes, c'est-à-dire la circulation des manuscrits, leurs copies, éventuellement leurs pertes, leurs altérations, les interpolations, les marques d'usage sur les manuscrits qui montrent qu'on y est retourné de manière ponctuelle, de manière continue, pendant des siècles. Tout ça fait qu'on a un certain nombre d'indices qui prouvent que le manuscrit est vivant et continue de fonctionner. J'aurais voulu évoquer, mais je ne veux pas monopoliser la parole trop longtemps, également un processus qui me fascine beaucoup, qui est la traduction en français d'œuvres savantes latines écrites en latin. Et c'est un processus qui a aussi touché le droit savant. Donc il y a des auteurs de droit savant, je pense en particulier à Tancrède, un canoniste, et à Azon, un spécialiste droit romain, qui ont été traduits en français au XIIIe siècle, ce qui montre bien qu'il y a un intérêt probablement extra-académique pour les œuvres des juristes savants chez un public laïque, lettré, mais pas latiniste. Donc, tout ça, c'est des éléments qui montrent qu'il y a une transmission qui se fait de ces œuvres juridiques. Le dernier point et ma conclusion, ça sera autour de la question de l'autorité et de la légitimité. Peut-être en commençant par la fin, c'est-à-dire en commençant par ce qui nous a été montré tout à l'heure, l'imprimerie. La question de l'imprimerie qui est une question importante, notamment pour les médiévaux, parce que l'imprimerie a incontestablement marqué une rupture dans cette histoire. Une rupture considérable dans l'accès à la ressource matérielle en retenant certaines œuvres antécédentes et en excluant d'autres sur des critères qui ne sont pas toujours des critères évidemment scientifiques, mais qui sont des critères qui peuvent être éventuellement des critères de rentabilité commerciale, voilà, ou de goût personnel de l'éditeur. Donc il est résulté de ces choix des sélections qui ont pesé durablement sur notre vision des productions doctrinales médiévales, resserrant ou réservant souvent l'aura des grands juristes à ceux qui ont été édités, et mettant dans l'ombre, plongeant dans l'ombre, un certain nombre d'entre eux qui pourtant avaient connu une bonne diffusion aux époques antérieures, mais qui n'ont pas été repris par l'imprimerie. Donc l'imprimerie a été un élément de canonisation incontestablement de cette doctrine juridique. Et puis, bien sûr, la construction d'un canon des œuvres, et des œuvres les plus importantes, elle a été le fruit de la doctrine elle-même. Comme on sait, le travail de rassemblement, d'organisation des commentaires a donné naissance à une série de gloses ordinaires, pas seulement en droit romain, hein, en droit canonique également, dont la plus connue, c'est l'œuvre d'Acurse, donc la Grande Glose, qui est un travail de récapitulation, qui a été vraiment le point d'orgue et le passage de relais entre l'époque médiévale et les époques ultérieures. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce travail de canonisation, ce n'est pas un travail de fermeture. Malgré leur prestige, les interventions d'Acurse, dans la mesure où elles constituent elles-mêmes des interventions doctrinales, donc ces interventions conservent toujours une dimension herméneutique, c'est-à-dire propositionnelle et, somme toute, critiquable. Bien sûr que la Grande Glose occupe une position surplombante, bien sûr que le prestige d'Acurse a assuré à sa glose une fonction normative de son travail, mais cette fonction normative n'a jamais été absolutisée. Ça reste un répertoire de ressources textuelles, certes ordonnées, certes hiérarchisées, mais relativement ouvertes. Comme preuve, précisément, l'utilisation, comme l'a très bien montré Xavier Prévost, de Jacques Cujas lui-même à l'égard de la Grande Glose. Je cite les bons auteurs, là encore, vous aviez. Celui qui parcourt les œuvres de Cujas est nécessairement frappé par le nombre d'occurrences que connaît la Grande Glose. Acurse est censé être cité, tout particulièrement dans les cours du maître de Bourges. Merci d'avoir parlé du maître de Bourges. Le travail des premiers exégètes du corpus Iuris Civilis semble constituer un outil de réflexion indispensable, sur lequel il apparaît nécessaire de prendre position, que ce soit pour le confirmer ou l'invalider. Alors, dernier élément, et je conclue, pour dire que ce travail de canonisation, ce travail de légitimation, ce travail de renforcement de l'autorité des juristes, par leur écriture, a aussi eu un prolongement dans leur activité, en particulier dans leur activité de consultation. Le droit a une fonction pratique, on l'a souvent dit, et cette activité de consultation a aussi contribué à nourrir l'image d'un grand juriste. On évoquait tout à l'heure les consultations de Cujas, qui faisait autorité devant un tribunal et qui emportait la décision judiciaire. Mais il en a été de même pour ses prédécesseurs médiévaux, une consultation de Bartholdi ou de Balde emportait de la même façon la conviction des juges. Et d'ailleurs, ces consultations ont fait l'objet de maintes recueils, de concilia, donc qui nous permettent d'en garder la mémoire. Donc ce mouvement constant de la réflexion à la consultation, puis de la consultation à l'action, rappelle aussi, s'il en était besoin, la part importante prise par de nombreux juristes, et sans doute par les plus grands d'entre eux, dans le débat public, comme dans la conduite des affaires communes. Dans le meilleur des cas, reconnu par ses pairs, crédité d'une opinion qualifiée, expert auprès des tribunaux et des gouvernements, le grand juriste conjuguait l'aura de la science, le prestige de l'influence et les avantages du pouvoir. Une situation somme toute confortable qui lui valut parfois les honneurs de l'espace public, on y revient, un anoblissement, et on pouvait devenir noble après l'exercice, je crois, de 25 années de professorat en droit. Je regrette que cette coutume ait été abandonnée. Mais donc aussi la reprise de l'opinion des grands juristes dans des décisions de justice ou des prescriptions normatives, c'est-à-dire que la réflexion devient elle-même norme. Entre le savoir et la norme, entre la littérature juridique, aussi toujours entre la libre discussion des opinions et l'institution d'une autorité incontestable. Alors, à son image, à l'image de cette littérature juridique, finalement, qui hésite entre ces deux pôles, de la réflexion et de l'action, de la créativité et de l'institution, eh bien, la figure du grand juriste s'échelonne du savant à l'homme d'action, en passant par le créateur, le professeur et, dans le pire des cas, le censeur. Au-delà, donc, de la transmission plus ou moins aléatoire des œuvres de l'esprit, parfois menacées par l'oubli, la destruction, la perte, il appartient à chaque génération de se tourner vers le passé pour y trouver des modèles d'inspiration ou des repoussoirs, des grands juristes à honorer ou à détester, de façon à penser le droit avec eux, contre eux et finalement au-delà d'eux. Je vous remercie.